ni souffrir. C'est les icônes. Parce que les orientaux ne distinguent pas comme chez nous les mystères joyeux, douloureux et glorieux du rosaire. Toute icône doit donner l'ensemble du mystère chrétien. Donc si on dessine, si on écrit, comme ils disent, une icône de la nativité, ce n'est pas le troisième mystère joyeux comme pour nous. La nativité, c'est la naissance de la future victime du calvaire. Donc le berceau, c'est un autel sur lequel se trouve Jésus. Et l'ange annonce le saint linceul dans lequel il sera enveloppé le vendredi saint. Et la grotte est toute noire parce qu'elle annonce la grotte du Saint-Sépulcre. Vous voyez ? Donc c'est le début de la... On parlera beaucoup de cela après-demain. C'est Jésus qui vient offrir un sacrifice à son Père. Par contre, si l'on représente Jésus sur la croix, il ne faut pas qu'il souffre. Parce qu'il va ressusciter. Pensez à ce fameux crucifix qu'on retrouve maintenant partout. Le crucifix devant lequel saint François d'Assise a entendu Jésus lui dire à saint Damien, va Francesco, il rebâtit mon église qui est bien près d'être en ruine. Une parole qu'il a prise à la lettre, il s'est fait maçon et il a réparé toutes les petites églises aux alentours d'Assise. Le crucifix de saint Damien ne souffre pas. Jésus, il est déjà prêt à ressusciter. Et d'ailleurs, sur les icônes, on voit Jésus en habit sacerdotal, alors qu'il était nu sur la croix, pour montrer que c'est la future, c'est le Christ qui s'offre en sacrifice au calvaire. Voilà. Donc, on peut aimer les icônes, comme moi, mais préférer aussi, de temps en temps, des peintures, des fresques où Jésus sourit ou souffre. Je rappelle que c'est seulement au XIIIe siècle qu'on a osé représenter Jésus souffrant sur la croix. Comme dit Émile Malle, le grand spécialiste d'art religieux, saint François a fait pleurer toute l'Europe sur les souffrances du Christ. Les stigmates de saint François, puisque saint François était le premier homme à subir les stigmates, ont beaucoup encouragé les chrétiens à méditer les souffrances du Christ. Hein? Voilà. Nous allons donc essayer de méditer aujourd'hui l'un des plus grands mystères de notre foi, les plus joyeux et les plus contestés. C'est seulement vers l'an 1960 que l'Europe chrétienne n'a plus osé croire au mystère de la Providence qui est énoncé en toutes lettres dans le credo chrétien. Credo in unum Deum, patrem omnipotentem. Omnipotentem, c'est la traduction d'un mot grec, pantocrator. Monseigneur Battu, évêque auxiliaire de Lyon, a fait sa thèse là-dessus. Il fait remarquer que saint Augustin disait qu'il aurait peut-être mieux valu traduire le pantocrator grec par omnitenens, tenant le globe dans sa main. Vous avez déjà vu des icônes où Jésus est assis sur un trône, le roi du ciel et de la terre. De la main droite, il bénit le monde, à la façon des icônes, les trois doigts étendus, les deux doigts repliés, pour montrer qu'il appartient à la Sainte Trinité, mais qu'il est à la fois homme et Dieu, Concile de Chalcédoine, 451. Et de l'autre main, il tient le globe du monde, il mène le monde, il est maître des temps et de l'histoire. Le mystère de la Providence, c'est que Dieu mène le monde sans manipuler nos libertés. Ça, c'est incompréhensible. C'est une contradiction qui est insupportable pour certains esprits rationalistes. Parce que s'il mène le monde, alors on n'est plus libre. Et non, nous sommes libres. Nous ne sommes pas revenus à la pensée des Grecs. Je rappelle que pour la tragédie grecque, les hommes ne sont pas libres. Édipe ou Sisyphe, les grands héros de la tragédie grecque, Eschyle ou Sophocle, sont soumis à un destin, à un fatum. Fatum, c'est un mot latin qui veut dire mot à mot dit par les dieux. Fari, qu'on trouve plus en latin classique, qui veut dire parler. Bon, le fatum, c'est ce qui est dit, énoncé de toute éternité par les dieux. Donc, dans la tragédie grecque, les héros ont suffisamment de liberté pour rouspéter contre le destin voulu par eux, voulu par Dieu pour eux, mais pas suffisamment de liberté pour le nier, pour le changer. Donc, Édipe, le type même du héros grec de la tragédie classique, tue son père dans une rixe sans savoir que c'est son père, épouse sa mère, reine de Thèbes, sans savoir que c'est sa mère, et devient aveugle à la fin de sa vie, et la tragédie estime qu'il voit enfin clair, il comprend enfin dans sa césité qu'il ne pouvait pas changer son destin. Ça, c'est typique de la tragédie grecque. Vous voyez, l'homme subit un destin qu'il ne peut pas changer. La Bible affirme avec force que nous ne sommes pas victimes d'un destin, que nous sommes libres, qu'il dépend de nous de réussir notre vie ou de la rater. Puisque nous pouvons pécher, si nous pouvons pécher, c'est que nous sommes libres ou non de pécher ou non. Donc il est évident que pour les chrétiens, comme pour les juifs et les musulmans, l'homme est libre. Quand je fais un article sur la Providence, je suis parfois obligé de réviser le texte parce que certains journalistes me font dire quelque chose qui est une erreur énorme, que les musulmans sont fatalistes. Les musulmans ne sont pas fatalistes. Il suffit de penser que pendant très longtemps, les rois catholiques d'Espagne ont eu à leur service des médecins musulmans, arabes. Quand on est médecin, on n'est pas fataliste. On sait qu'on peut changer, l'ordre du monde, qu'on peut lutter contre la maladie. Le fatalisme, c'est quand on dit, quoi qu'il arrive, je serai malade. Non. Donc, les musulmans, en disant, Inch'Allah, disent exactement.